on commence ce journal avec la découverte d'un essai clinique dit sauvage sur 350 malades d'Alzheimer et Parkinson dans une abbaye près de Poitiers.
L'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a annoncé hier l'interdiction de cette expérience. Elle a aussi déclaré vouloir saisir la justice. Derrière la structure Font Josepha, Henri Joyeux, radié de l'Ordre des médecins depuis 2016, expérimentait sur ses patients un patch. Un patch qui contient deux molécules pour tenter de soigner les maladies neurologiques. Alors pourquoi on parle d'études cliniques sauvages? C'est parce que normalement, les études sont autorisées par l'ANSM, mais aussi par le CPP, le Comité de protection des personnes, et par la CNIL. L'étude est ensuite enclenchée par une signature du patient en présence d'un médecin. C'est la signature du consentement éclairé. Alors demain, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. La nouvelle suscite beaucoup d'émotions. Bruno Dubois est neurologue à la Salpêtrière. Il vient de publier chez Grasset « Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle ». On revient sur les cadres légaux et scientifiques des essais cliniques.
Écoutez, moi je suis très étonné de cela, je ne savais même pas que c'était possible, parce que les essais thérapeutiques sont des procédures qui sont extrêmement encadrées, c'est comme une course d'obstacles. Il y a d'abord, bien sûr, toutes les étapes de développement du médicament qui est réalisé par le laboratoire, ce qu'on appelle les étapes précliniques, quand ils ont la conviction que ce produit pourrait avoir un intérêt dans une maladie, ils vont étudier sa tolérance chez des sujets normaux, sains. Et c'est ce qu'on appelle l'étude de phase 1. Puis une fois qu'on a montré que ce médicament ne posait pas de problème de tolérance particulier, même à des doses élevées, on va passer chez le malade en faisant des études de phase 2, puis après des études de phase 3, c'est-à-dire des études qui vont être généralisées à l'ensemble de la population des patients. Bon, tout ça pour vous dire que c'est un processus qui est très encadré. Et ce n'est qu'à ce prix-là que l'on peut inclure des patients et étudier un médicament chez des patients. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est difficile pour l'Alzheimer comme ça l'est pour le Parkinson. Ça fait partie du saut d'obstacles auquel nous sommes confrontés. Nous savons que c'est difficile, mais c'est comme ça et c'est très bien. Parce que grâce à ces précautions, les patients sont remarquablement défendus et on ne peut pas faire des expérimentations à l'aveugle, comme ça, sans garantie.
En bref, selon une étude parue hier dans la revue Science, les États-Unis ont perdu 3 milliards d'oiseaux depuis 1970.
Ça représente l'effondrement d'un quart de la faune aviaire, un oiseau sur quatre. Moineaux, merles ou passereaux, hein, ça concerne 12 familles d'oiseaux. Mais les plus touchés, ce sont ceux des zones agricoles, hein, où l'on observe une disparition de la faune aviaire de 53% en 48 ans. Les chercheurs américains ont analysé 529 espèces. Ils ont recoupé les informations de différents relevés annuels, dont ceux des stations radars qui détectent les flux migratoires. Alors seuls les canards et les oies semblent échapper à ce déclin, mais globalement, ce sont des chiffres similaires à ce qu'on observe en France et en Europe. Plusieurs causes sont évoquées, l'intensification de l'agriculture, la transformation des paysages et l'utilisation massive des pesticides.
Selon une étude parue dans The Lancet Infectious Diseases, une dose unique de vaccin contre la fièvre jaune ne protège pas tous les enfants de façon durable.
On pensait qu'une dose de vaccin contre la fièvre jaune procurait une immunité à vie. Cette étude montre que ce n'est pas le cas pour les nourrissons, pas tous. Il est montré que la moitié des enfants vaccinés dès leurs 9 mois cessent d'être protégés du virus à partir de leurs 2 ans. Le taux des anticorps spécifiques chute avec le temps. Ce travail suggère donc qu'un rappel de vaccin peut être nécessaire si la première vaccination a été faite en dessous de 12 mois.
Et selon une étude publiée hier dans la revue Science Advances, la poussière d'un astéroïde aurait provoqué une période glaciaire il y a 466 millions d'années.
Vous ne comprenez pas pourquoi à cette époque la Terre avait traversé une période de gel. L'université de Lund en Suède a analysé des roches de cette époque. Les chercheurs ont trouvé une grande quantité de matière d'origine extraterrestre. L'hypothèse avancée, c'est qu'un astéroïde en aurait impacté un autre, près de notre planète. L'impact aurait provoqué la retombée sur Terre d'une énorme quantité de poussière, ce qui aurait conduit au refroidissement de l'atmosphère. Selon cette étude, ces retombées de poussière ont aussi accéléré le processus de biodiversification.
Cette semaine dans le Journal des Sciences, nous avons parlé de nouvelles cellules solaires qui peuvent recycler la lumière artificielle en électricité, des nouvelles cartographies des particules fines à Paris, de la première détection d'une pépinière stellaire à plus de 8 milliards d'années-lumière et d'une méthode qui montre que de nombreux traitement contre le cancer ne vise pas les bonnes cibles moléculaires. Tout ça, on vous le met en lien comme d'habitude sur le fil Twitter de la méthode scientifique @laméthodefc, mais également dans l'actualité scientifique en ultra bref, Natacha.
Alors l'expédition scientifique Mosaïque commence aujourd'hui. À bord du navire de recherche le Polar Stern, 600 scientifiques du monde entier vont se relayer pour passer un an emprisonnés dans les glaces de l'océan Arctique. L'objectif est de mieux mesurer le réchauffement climatique du pôle Nord. Selon une étude de l'Université nationale de Singapour, boire du thé améliore l'efficacité du cerveau. C'est ce que révèlent les IRM et les tests neuropsychologiques de personnes âgées. Ceux qui consomment du thé au moins 4 fois par semaine et depuis 25 ans présentent de meilleures interconnexions des zones cérébrales. Le thé diminuerait donc le déclin cognitif. Et enfin, une étude australienne vient de prouver qu'un cadavre humain bouge pendant un an. Une vidéo en timelapse a été réalisée dans une morgue pendant 17 mois. Un corps était filmé toutes les 30 minutes. Les mouvements post-mortem font même bouger un bras de droite à gauche. Des mouvements qui sont issus du processus des décompositions et de l'atrophie des ligaments.
Et on passe, c'est bien comme un vendredi sur deux, à notre nouveauté de cette année, le journal de la SF. Pour la première fois, Natacha, l'US Navy confirme l'authenticité de 3 vidéos d'OVNI.
3 vidéos qui datent de 2004 et 2015 et qui ont été faites par des pilotes en plein vol. Alors on ne voit pas grand-chose, ce sont des objets à chaque fois et ils font des mouvements impossibles à réaliser avec des engins connus. Accélération, arrêt brutal, virage brusque, les spécialistes ne comprennent pas du tout. Mais pas de raccourci, hein. Le gouvernement américain prend ses observations très au sérieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il reconnaît l'existence d'une vie extraterrestre. Il y a d'ailleurs un changement de terminologie. On ne parle pas d'UFO, d'OVNI, mais de phénomènes aériens non identifiés. Gabriel Chardin est physicien et médaille d'argent du CNRS. Il a coécrit aux éditions CNRS « Où sont-ils les extraterrestres ?» et le paradoxe de Fermi.
Ce qu'elle confirme l'armée américaine, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Avoir quelque chose qui n'est pas identifié, ce n'est pas nécessairement ce que les gens voudraient voir, c'est-à-dire un véhicule extraterrestre, hein, qui est une question complètement différente. Il est clair qu'il y a pas mal de pays qui développent des drones assez rapides et très très réactifs, hein, qui peuvent éviter les missiles par exemple. Bon, voilà, on aurait plutôt tendance à chercher de ce côté-là avant d'aller chercher la solution d'un véhicule extraterrestre. Personnellement, j'ai du mal à croire à des origines extraterrestres pour diverses raisons, mais en particulier, on a écrit avec quelques collègues scientifiques un livre sur le paradoxe de Fermi, c'est-à-dire que le paradoxe de Fermi, du nom du prix Nobel Enrico Fermi dans les années 50, c'est de se dire qu'on devrait avoir au contraire énormément de visites d'extraterrestres. Et pourquoi diable est-ce qu'il n'y en a pas? Et notre conclusion, c'était parce que, évidemment, un, c'est très très difficile de fabriquer. Autant une civilisation technologique comme la nôtre, probablement, ça arrive pas très souvent, mais relativement souvent, hein, vu le nombre de planètes dans la galaxie. Par contre, il y a une instabilité liée au voyage interstellaire, parce que en gros, pour faire décoller une fusée interstellaire, il faut avoir la consommation mondiale pendant toute la phase du lancement et même après, au-delà. Donc du coup, ça, c'est quand même extrêmement instable. Ça rend assez peu probable, je dirais, les voyages interstellaires.
En bref, la NBC Universal lance une nouvelle série Battlestar Galactica.
Battlestar Galactica, la série culte en 73 épisodes de 2009 à 2014 et inspirée de la série Galactica de 1978. Sa nouvelle version sera réalisée par Sam Esmail, le créateur de Mister Robot. Elle sera visible sur Peacock, la nouvelle plateforme de streaming de NBC Universal. Mais il faudra attendre avril 2020 pour la visionner.
Il faudra attendre beaucoup moins pour qu'on consacre un vendredi de science-fiction à Battlestar Galactica comme tout le monde le réclame d'à corps et à cri. On va le faire, promis, dans pas très longtemps. Lors de la 71e édition des Emmy Awards, Natacha, la NASA a remporté 2 prix de Creative Art Primetime.
Ce sont les trophées du petit écran et l'Académie des Emmy Awards a récompensé l'Agence spatiale américaine pour les vidéos en direct de plusieurs missions. Celle du premier test de la capsule de SpaceX, The Crew Dragon, et celle de la mission Inside qui s'est posée sur Mars le 26 novembre 2018.
Voilà, un mot pour vous dire également que le livre de Jean Barret que nous recevions ici il y a 15 jours, VTM, n'était pas encore publié. Il est officiellement publié depuis depuis hier. Vous pouvez donc vous le procurer en librairie. On va vous remettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée à cet auteur assez singulier dans la science-fiction française et, je dois dire, à titre personnel, assez passionnant. Et puis Natacha, comme chaque vendredi, la rubrique que tout le monde attend avec impatience, la rubrique de science improbable, avec aujourd'hui vraiment quelque chose qu'on va être bien content d'apprendre pour pouvoir en discuter ce week-end au dîner de famille. Hein? Selon une étude parue dans Animal Cognition, Natacha, les chats ont conscience de certaines lois de la physique.
Les chercheurs de l'université de Kyoto montrent dans cette étude que les chats sont capables de comprendre un système de cause à effet. Alors, cette équipe japonaise a observé une trentaine de chats. D'une part, ils sont capables de déduire la présence d'un objet caché dans une boîte par le bruit qu'il y fait à l'intérieur. Et dans un second temps de l'expérience, les chercheurs ont truqué certaines boîtes. Ils les secouaient devant les chats, elles produisaient un bruit de clochette, mais une fois ouvertes, elles étaient vides. L'étude décrit des chats complètement désœuvrés, stupéfaits, qui fixaient longuement à l'intérieur de la boîte. Alors, je cite la conclusion de cette étude. Cette étude peut être considérée comme une preuve que les chats ont une connaissance rudimentaire de la gravité.
Gaston, si tu nous écoutes ce soir, il y a un terreau de physique quantique. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve lundi prochain. Et puis, comme tous les jours, évidemment, on peut retrouver tous les liens vers les études qui ont été citées dans ces journaux des sciences sur notre fil Twitter, @lamethodefc.